Le berceau de l'histoire. Jean-Pierre Constantin.
Bonjour à tous, nous sommes toujours avec l'archéologue Véronique Dazen pour parler du jeu dans l'Antiquité. Véronique Dazen, vous m'avez dit dans la première partie de cette émission que les Grecs jouaient aux osselets et que les Romains jouaient aux dés. Les Romains ne faisaient pas que jouer aux dés, ils trichaient aussi. Les Romains auraient donc inventé la triche.
C'est une boutade, bien sûr, parce que ce que nous livrent les Romains, c'est un témoignage de la triche, un témoignage physique, matériel de la triche, qui sans doute a toujours existé.
Il fallait que ça tombe sur eux.
Et il fallait que ça tombe sur le dé, parce que le dé, contrairement à l'osselet, on ne peut pas, par l'adresse, obtenir le coup qu'on veut. On est obligé de modifier le dé qui est régulier. Mais c'est intéressant parce que c'est un artefact qui est entièrement fait par l'être humain. C'est-à-dire que l'autre est produit par un animal, donc déjà là, il y a un rapport presque cosmique qui est différent à la pratique ludique. Et ces dés qui sont débités à partir de petites réglettes d'os, hein, donc qui se veulent régulières, même si sur le terrain on voit qu'ils ne sont pas tous réguliers, ça c'est nous qui sommes un peu maniaques de la régularité. En réalité, non, ils ont souvent un peu de bizingues, est-ce que c'est pour les falsifier déjà? Mais on a découvert lors de notre étude, l'acétoma d'agneau en Belgique, une villa romaine qui avait parmi des objets ludiques un peu oubliés parce qu'il était prisé un dé au mercure, c'est-à-dire un dé falsifié, truqué, dans lequel une gouttelette de mercure préservée, qu'on a une gouttelette de mercure romain, pouvait se déplacer librement ou presque à l'intérieur de ce dé. Il y avait un petit truc en plus, à la manière d'un plomb. Hein, on connaît les dés truqués au plomb, mais le plomb il est toujours au même endroit. Donc chaque fois qu'on lance le dé, on a chaque fois le même coup. C'est-à-dire que là, on peut obtenir le coup qu'on veut. On peut obtenir un 1, un 2, un 3. Même si, ça c'est la mise en pratique avec un magicien, Eric Magic, qui en a deux encore de ses dés, et qui nous a expliqué qu'on n'obtient pas forcément le coup qu'on veut, et il y a une dimension aléatoire, mais qui rend la pratique à la fois plus humaine et moins facilement détectable.
Des traces archéologiques de ces jeux, donc l'archéologie est au cœur de cette recherche. On retrouve des objets, et où est-ce qu'on peut voir ces objets, où est-ce qu'on peut les admirer?
C'est sans doute là que le projet a aussi fait bouger les lignes, en augmentant de manière considérable nos connaissances, parce qu'on a procédé vraiment à une recension de tout ce qu'on pouvait encore retrouver matériellement, mais aussi dans les images, dans les représentations, pas seulement dans les textes, qu'il s'agissait aussi de réinterpréter à la lumière des objets, à la lumière de l'ensemble de la documentation. Alors d'une part, et là c'est presque un appel que je peux lancer, il y a tous les jeux gravés par terre. On a élaboré une base de données qui est aussi publiée, il y a un volume qui va sortir prochainement, avec tous ces jeux gravés par terre sur le sol en marbre des cités, surtout de l'époque romaine, hellénistique romaine, dès qu'on se met à avoir des sols en marbre, parce que ça se conserve le mieux. Et donc on a cet élément-là qui est conservé, c'est-à-dire le jeu des cinq lignes, des latroncules ou autres structures qu'on peut photographier, et donc envoyez-nous des photos si vous en voyez, en vous promenant à Éphèse, Pergame, Ostie, et on se fera un plaisir de vous aider à identifier ces jeux gravés par terre, qui nous disent que d'une part, on joue par terre, d'autre part que c'est une pratique ludique publique, que tout le monde vous voit jouer. Donc là, on soupçonne que ce sont plutôt des hommes et des hommes libres, quoique à voir si c'est des hommes libres, qui s'adonnent à ces jeux peut-être en fin de journée, quand on ferme la boutique ou qu'on sort d'une délibération et qu'on a un moment d'échange, comme aujourd'hui quand on est en Grèce, on voit les messieurs encore dans les café Néon, en train de jouer à un jeu de plateau. Et c'est une manière de montrer aussi à la fois qu'on est libre, qu'on a du temps, qu'on a du loisir. Et donc on a tous ces jeux gravés par terre. Ça, c'est une chose qu'on peut voir, qui est assez fascinante, mais qui ne doit pas nous faire oublier que les jeux étaient aussi gravés sur des plateaux en bois. Et dans les images romaines, on voit bien ces plateaux qui sont posés sur les genoux. Donc, il n'y a même pas d'autres structures, on n'a même pas besoin d'une table. On est face à face, on pose un grand plateau sur les genoux et on se met à jouer. Alors ça, c'est une chose. Et puis l'autre, ce sont toutes les collections d'artefacts, donc les dés et autres, qui sont dans les musées. Et j'espère que notre projet a permis de faire comprendre leur importance. Et ici et là, il y a des expositions. Si vous allez à Pompéi, il y a désormais un espace qui est aussi maintenant dédié aux jeux dans leur exposition permanente, grâce au travail qui a été effectué sur place. Un livre est sorti, hein, Ludite et Pompeiani, sur les jeux tels qu'on les a trouvés à Pompéi. Et l'exposition ludique qui a circulé, qui était récemment à Reading, va sans doute se poursuivre sous une forme ou une autre. Et j'espère qu'on va pouvoir, dans un prochain projet, j'ai donné aussi du matériel aux musées et aux écoles pour pouvoir profiter de ces informations et par là mettre en valeur dans des vitrines avec le discours approprié, le commentaire approprié sur ce que signifient ces objets, sur la sociabilité, sur les relations intergénérationnelles, sur tout ce domaine-là. Donc les musées, et les musées aussi pour les images, c'est-à-dire les vases auxquels j'ai consacré le livre que vous avez mentionné au départ, hein, le jeu comme métaphore, mais aussi des statues, mais aussi des mosaïques, donc tout un ensemble documentaire très riche, extrêmement riche.
Est-ce qu'il y a un musée ou des musées dédiés aux jeux, exclusivement dédiés aux jeux?
Alors pour ce qui est des jeux antiques uniquement, non. À part les musées, bien sûr, qui sont les musées nationaux d'archéologie, qui vont dédier une vitrine ou deux à ce sujet. Il y a un très beau musée en Suisse qui s'appelle le Musée Suisse du Jeu, dont le directeur était partenaire du projet, Ulrich Schedler, et maintenant c'est Selim Krisham qui a repris le flambeau en y introduisant les jeux vidéo, ce qui est intéressant pour nous aussi, pour réfléchir à comment cette sociabilité continue, mais se traduit par d'autres outils, d'autres techniques, mais qu'est-ce qui a changé en fait vraiment, hein, d'un passage à l'autre. Donc le Musée Suisse du Jeu qui se trouve à la Tour de Paix en Suisse et qui est vraiment dédié à cette histoire culturelle et sociale du jeu.
Est-ce que le jeu évolue, change, se transforme, ou bien est-ce que c'est toujours le même principe?
Alors à la fois, il se transforme toujours. Il s'adapte toujours à la société dans laquelle il se déroule, même si, on peut dire, les moteurs du jeu vont rester les mêmes, comme la compétition. Ce désir de vaincre, de mettre deux individus en concurrence, il est propre sans doute à l'être humain aussi, et puis il fait partie du plaisir, mais il se décline différemment d'un jeu à l'autre et d'une société à l'autre. En Grèce ancienne, c'est très important, cette dimension d'affrontement d'un individu à un autre individu. Et dans nos images, ce qui est mis en scène, c'est d'une part la parité, c'est toujours deux individus de même force, hein, comme Achille et Ajax, c'est les deux meilleurs amis, hein, donc c'est une concurrence entre amis, c'est donc un vrai entraînement au fair play. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui traverse les âges aussi, cette valeur du jeu qui est à la fois de souder une communauté, de créer une intimité, une complicité entre deux personnes, plusieurs personnes même. Et donc on a au travers du jeu aussi un instrument formidable de non seulement de cohésion sociale, mais de dialogue et même de dialogue interculturel. Quand on nous présente un jeu qui vient d'ailleurs, qu'on apprend ses règles, on apprend toute une société, toute une culture, on a là une voie d'entrée très précieuse vers l'autre, vers sa différence et en même temps sa ressemblance. Parce qu'il y a effectivement, comme vous le dites, à la fois des différences, mais aussi un moteur commun.
Alors, vous avez parlé des osselets qui provenaient des animaux de sacrifice religieux. Quel rapport entre le jeu et la religion, entre le jeu et la mythologie? Et puis, est-ce qu'il y avait chez les anciens un dieu du jeu ou des dieux du jeu? Est-ce que les dieux jouaient? Est-ce que les dieux aimaient jouer?
Ah oui, les dieux adorent jouer. Les dieux adorent jouer. Et peut-être que le petit dieu le plus emblématique, c'est Eros. Ce qui m'amène à évoquer...
Ce sont des jeux un peu particuliers.
Qui m'amène à évoquer le double sens de Paizain comme de Ludere, qui est aussi le jeu érotique, le jeu de séduction.
Là, il va nous falloir une explication de texte, donc allez-y, je vous écoute.
Alors, Eros est un petit dieu malicieux, hein, est un petit dieu malicieux qui va participer à l'éveil du sentiment amoureux. C'est comme il va lancer ses flèches, puisque l'amour est ressenti à la fois comme un plaisir, mais comme une souffrance. Il ne faut jamais oublier ça aussi. On est dans des sociétés contraintes, où les gens ne se marient pas forcément comme ils le souhaitent, mais ils ont, comme aujourd'hui, des sentiments qui peuvent s'éveiller. Et l'image de ce petit dieu qui les suscite, tout comme le processus magique, hein, qui est impliqué, permettre de se dédouaner, permettre de se justifier, d'avoir des sentiments là où il ne faudrait pas en avoir. Donc Eros, c'est le dieu par excellence qui joue, aussi parce que c'est l'enfant. Ovide a une très jolie phrase, il dit à Eros, tu es un enfant, joue donc. Et les interprètes vont dire, eh bien oui, voilà, c'est Eros, c'est l'enfant par excellence, donc l'enfant c'est le jeu. L'enfant apprend l'univers, le monde par le jeu, il apprend à tester hein, l'autre, il apprend à tester des situations dans ce moment de jeu. Donc c'est Eros hein, qui est là, qui est présent. Mais évidemment, quand il dit « joue donc », il y a une autre dimension aussi qui s'ajoute. C'est une incitation, parce que c'est Ovide, c'est dans l'art d'aimer. Il l'invite à susciter le désir amoureux chez les adultes aussi, chez les hommes et chez les femmes. Et Ovide, dans l'art d'aimer, on va consacrer toute une partie à l'apprentissage du jeu comme un moyen de séduction. Il va dire aux femmes « si tu veux séduire, eh bien apprends à jouer à des jeux de plateau ». Donc on en revient à cette idée, est-ce que les femmes jouent hein, à des jeux de plateau? Eh bien oui, en tout cas Ovide les y incite en disant que d'une part, et pour nous c'est très précieux, il fait une description des différents jeux qui existent à Rome, tu dois apprendre à jouer ou la troncule, ou dodecim scripta, tu dois apprendre à jouer alors vraiment à des jeux de plateau et de stratégie, puisque l'amour est comparé à un... pas à une guerre, mais à une sorte de forme de compétition. Hein. Il y a une tension, il faut réussir à capturer l'autre. Et l'image qu'il utilise est celle du jeu. En même temps, il va expliquer à cette femme qu'elle doit apprendre à savoir se contrôler. C'est-à-dire que quand on se laisse prendre par le jeu, il ne faut pas se laisser déborder par les émotions pendant le jeu. Qu'il n'y a rien de pire qu'une femme qui se met à pleurer parce qu'elle va perdre. Alors ça, c'est très mauvais, ou elle part en colère. Ça va nuire complètement à la relation qu'elle aimerait établir. Et à l'homme, il a ce propos très charmant. Il lui dit, si tu veux séduire une femme, et c'est très simple le conseil, laisse-la gagner. Laisse-la gagner. Alors il explique comment il faut faire pour agiter maladroitement les dés. Là j'ai une énigme, je ne sais pas comment on fait pour agiter maladroitement les dés et permettre à la femme de gagner. Mais par contre après il explique comment sur le plateau ben, il faut être maladroit et puis c'est comme ça qu'on va gagner son cœur.
C'est aussi une forme de triche.
Oui, c'est vrai.
Ah, mais bon, c'est légitime. Et donc, est-ce que les dieux jouaient entre eux? Est-ce qu'il y avait des jeux entre les dieux ou pas du tout? On n'a pas de traces de ça.
Alors, des jeux entre les dieux, pas trop, mais c'est une piste à explorer, hein, comme toujours quand on cherche, parfois on trouve. Hein. Mais en tout cas, les jeux entre les dieux et les humains sont attestés. Donc, il n'y a pas seulement Eros qui se joue de nous. On a dans le traité des rêves d'Artémidore, on a un passage assez fascinant où il dit qu'un esclave a rêvé qu'il jouait à la balle avec Zeus. C'est-à-dire, ça me rappelle que vous m'avez demandé quels étaient les jeux qui étaient à la mode dans le monde romain. Eh bien, les jeux de balle et les jeux de ballons, ils sont à la mode à la fois dans le monde grec, dans le monde romain, et on comprend qu'ils le sont toujours aujourd'hui.
Oui, et comment?
Avec chaque fois chargé d'autres, bien sûr, métaphores. Donc, dans le rêve que nous donne Artémidore, qui écrit un traité de clé des songes, hein, comment interpréter ses rêves, c'est le rêve d'un esclave qui pense qu'il joue à la balle avec Zeus. Donc on peut faire de tels rêves.
Mais alors ces balles, ce sont, pardon, une question technique, c'est comme nos ballons de foot, c'est fabriqué avec quoi?
On a toute la gamme, et c'est très intéressant de parler avec des archéologues médiévistes, parce que ces balles ont dû être un peu les mêmes. Là, nous sommes à Fontainebleau, il y a un jeu de paume, donc il y avait l'équivalent du jeu de paume à Rome. Le problème, c'est que ces balles ne sont pas conservées. On a des représentations, je pense à une représentation dans les thermes d'Ostie, où on a un ballon qui est vraiment comme un ballon de foot, avec ses coutures de forme hexagonale. Il est absolument identique. Alors, on a différents noms, je ne vais pas les énumérer ici, mais on a la petite balle, la balle qui est dure, qui est remplie de paille, la balle qui est légère, remplie d'air, de plumes. On a toutes les catégories et différents jeux qui sont associés. Le jeu de trigone, dont on est à trois et on se lance la balle. Et il y a tout aussi un discours métaphorique qui est construit. Lancer la balle, c'est établir une communication, c'est une image de la sociabilité, et on sait que les Romains avaient un espace dédié au jeu de balle, donc une forme de jeu de paume, les sphéristeria, sphéristerium, c'est la balle, et ces espaces étaient sans doute accolés au terme. Donc on voit Mécène et ses amis, donc des Romains bontins, les VIP de l'époque, qui se rendent dans les thermes et qui après se donnent rendez-vous pour jouer à la balle.
Et ces balles ont été toutes perdues, évidemment, parce que ce sont des matériaux périssables.
Sauf en Égypte, parce que l'Égypte conserve tout. Et là, on a des exemples de balles qui sont remplies effectivement de paille, très légères, qui sont cousues. Il y a des balles qui sans doute devaient ressembler aux balles de jongleur, hein, remplies de graines. Mais on en a par contre les images, les représentations.
L'Égypte conserve tout à cause de son climat.
C'est ça.
Pensez sans doute, peut-être, à vos collègues, à vos futurs confrères qui vont arriver archéologues dans 2000 ans, dans 3000 ans, qui vont peut-être chercher à savoir un peu plus sur les jeux pratiqués au 21e siècle. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur laisser? Est-ce que vous auriez envie, comme ça, de leur mettre un trésor caché pour qu'ils le découvrent et qu'ils comprennent à quoi jouaient leurs anciens, c'est-à-dire nous?
C'est une vaste question qui engage cette longue durée. Notre longue durée aussi, comme archéologue, qu'est-ce qu'on retrouve comme trace? C'est-à-dire un petit pourcent de tout ce qui a existé, sachant que quand on parle de jeu, on parle aussi de patrimoine immatériel. On parle beaucoup aujourd'hui de patrimoine immatériel. C'est-à-dire toutes ces règles qui n'ont jamais été écrites, mais qui sont transmises d'une génération à l'autre et qui se transforment en plus d'une génération à l'autre. Ces jeux qui apparaissent, disparaissent. Peut-être là, j'aimerais évoquer, par exemple, le jeu de l'effet Drismos en Grèce, qui est une sorte de jeu du porteur, qui fait qu'on joue au cavalier sous les épaules d'un autre, sous les épaules ou avec différentes postures, hein, selon qu'on est en Grèce ou qu'on est à Rome ou qu'on est aujourd'hui. Donc on voit que des pratiques physiques, corporelles perdurent, se transforment. Le corps va rester, j'espère, le même. Bon, si c'est dans 3000 ans, je ne sais même pas si l'humanité survivra à ce qu'elle est en train de traverser, mais elle a beaucoup de ressources, en fait. Ça, c'est aussi le regard de l'historien. C'est que l'humanité n'a pas cessé de traverser des catastrophes, mais s'en est chaque fois sortie, avec de nouvelles expériences et de nouveaux horizons. Donc on va traverser tout ça et se transformer. Jouer certainement toujours, puisque c'est un moyen de communiquer. Et c'est un moyen de communiquer, c'est peut-être ça la magie du jeu, dans cet espace hors du temps et hors de tout enjeu matériel, hein, qui est l'espace du jeu, de l'imaginaire et de la liberté. Et ça, c'est un besoin qui est immanent à l'être humain et qui se préservera, quels que soient les instruments dont on dispose. Le digital, je ne sais pas trop ce qui va rester. Si vous allez voir l'exposition au Musée du Jeu, mes collègues ont rassemblé les tout premiers jeux vidéo. Eh bien, on a aujourd'hui déjà de la peine à trouver un ordinateur pour les voir, hein, pour les exécuter. Donc, on n'est même pas dans le millénaire, hein, on compte en dizaines d'années.
C'est vrai. Alors bon, votre réponse reste très... dans les sphères éthérées, mais moi je voudrais revenir un petit peu sur Terre. S'il y a un objet emblématique du jeu aujourd'hui, de nos jours, que vous aimeriez que les archéologues du futur découvrent, quel est cet objet ?
Ça dépend, tout dépend de la catégorie d'individus à laquelle on pense. Si on pense à des enfants, si on pense à des jeunes, si on pense à des moins jeunes, voilà, je crois qu'il y a différentes catégories d'objets. Et on n'a pas évoqué aussi les objets ludiques qui s'inscrivent dans l'histoire. C'est une des choses qu'on a vraiment cherché à faire, c'est à inscrire dans une histoire le jeu qui n'est pas atemporel. On l'a évoqué plusieurs fois. Par exemple, on n'a pas de cartes à jouer dans l'Antiquité. Hein. Et les cartes à jouer vont arriver très tard, au Moyen-Âge. Il faut pour ça que soit inventé le papier, il faut pour ça qu'il y ait une route commerciale qui l'amène. Enfin, il y a beaucoup de paramètres. Il y a la xylographie, la manière de reproduire le motif, hein, qui est sur les cartes. Vous allez peut-être me demander, est-ce qu'on a inventé les cartes pour jouer ou pour le tarot ? Et on retrouve la contiguïté entre jeu et divination. Donc, je suis un peu embarrassée pour vous dire lequel. Moi, je ne peux pas choisir. Hein. Il y en a trois qui sont bien. Donc, c'est peut-être le ballon qui va rester.
Le ballon.
C'est peut-être le ballon. Je pense que s'il fallait parier sur quelque chose, c'est peut-être le ballon. Parce que celui-là, on le voit apparaître très tôt dans le monde grec, continuer jusqu'à aujourd'hui avec le même engouement, puisque c'est un des instruments vraiment d'appréhension, de construction aussi de l'espace pour les tout petits enfants. En pédagogie, on utilise ce ballon aussi pour des enfants qui ont des difficultés à appréhender le monde réel, à communiquer avec l'autre. C'est par le ballon qu'on passe. Donc, si j'ai un vœu pour les générations qui viennent, ben, c'est de garder le ballon. Mon cœur irait vers l'osselet, parce que l'osselet qu'on ne joue plus d'ailleurs déjà maintenant, c'est cet objet polyvalent auquel un livre sera prochainement dédié, d'ailleurs par un membre de notre équipe, qui se transforme. Mais pour ça, il faut qu'on ait des bêtes à cornes, des bêtes, des ongulés qui existent toujours. Mais je pense qu'elles vont toujours exister, les chèvres et le reste.
Et le jeu d'échecs, ce n'est pas un jeu qui peut aussi représenter notre époque ?
Notre époque, oui, bien sûr, mais elle représente pour moi comme historienne surtout l'apparition aussi d'un jeu qui n'existe pas dans l'Antiquité, et ça c'est vers le 10e, 11e siècle, timidement. Alors la voie par laquelle il arrive en Europe et son origine sont encore un peu mystérieuses. On parle des Perses, on parle de différentes origines orientales. C'est le premier jeu où chaque pion, chaque élément ludique, un, est disposé d'avance sur le plateau. On commence une partie en ayant disposé ces éléments sur le plateau. Apparemment, dans l'Antiquité, tous les jeux de plateau que j'ai très rapidement évoqués, les pions entrent au fur et à mesure du jeu, ou au fur et à mesure du lancer de dés. Donc c'est une grande différence, et surtout, chaque pion, à la limite, est interchangeable. Leur valeur est identique. Il y a simplement les blancs, les noirs ou les bleus, les jaunes, mais ils ont une valeur presque démocratique. Enfin, c'est l'image, et là on revient à cette image de l'armée, c'est l'image de l'armée hoplitique, hein. Tout le monde est au même niveau, et ça va perdurer. Sauf dans le jeu d'échecs, où là on a un roi, une reine, on a la projection d'une hiérarchie sociale très forte. On a la tour, les cavaliers, qui n'existent pas du tout dans l'Antiquité, avec le succès qu'on connaît, puisqu'effectivement, on y joue toujours. Oui, gardons aussi le jeu d'échecs. Je vous dis, on peut garder beaucoup de choses.
Le jeu d'échecs, ça a été un jeu emblématique de l'Union soviétique, avec une dimension de propagande. Les soviétiques ont mis un point d'honneur à faire de ce jeu une sorte de drapeau, comme ça. Et on a vu la supériorité écrasante des joueurs soviétiques pendant presque un demi-siècle, qui a commencé d'ailleurs à décliner avec la chute du mur de Berlin. Ce jeu a été utilisé aussi comme un instrument
idéologique
de propagande.
C'est ça. Et je pense que Achille Ajax, qui joue au Pentagrammaï, a une valeur similaire dans l'iconographie grecque. Et c'est pour ça que sur les vases, c'est vraiment un phénomène. Il y en a presque 250 de ces vases. Et c'est énorme par rapport au grand naufrage des images grecques. Et ça nous transmet toutes les valeurs de la société grecque, aristocratique, donc du 6e siècle avant Jésus-Christ, au début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Des valeurs très fortes, hein, qui sont aussi des valeurs de code de la guerre, des valeurs sociétales. Et donc là, on opère souvent par comparatisme, et il est utile. Et il y a une autre comparaison, c'est qu'on en a parlé, on ne voit pas de femmes en train de jouer. Et ben, parmi les grands champions d'échecs russes, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus.
Ça m'amène à une question subsidiaire. Est-ce que vous avez parlé des jeux entre les hommes, entre les amis, le fait de se mesurer l'un à l'autre, vous avez parlé des jeux entre les femmes, est-ce qu'il y avait des jeux mixtes ?
Bien sûr, en réalité, il y avait des jeux aussi entre hommes et femmes. On les voit, les plus anciennes, c'est dans le monde étrusque. Les plus anciennes représentations. On voit un homme et une femme sur un miroir étrusque en train de jouer ensemble un jeu de plateau. Et il y a une inscription délicieuse puisque la femme dit « je vais gagner ». Et l'homme dit « peut-être ». Et donc on a toute cette tension entre ces deux individus. Et ensuite, dans le monde romain, ce motif revient dans des contextes parfois très touchants. Je pense à une urne funéraire qui est conservée au cabinet des médailles à Paris, où il y a un discours qui est tenu dans l'inscription et un autre dans l'image. L'inscription est très froide, très minimale. C'est Margaris, Margaris, c'est un prénom qui veut dire la perle, esclave, serrois. Marcus Aelius Herma a fait ce monument. Donc vraiment, trois mots. Hein. Donc il y a une esclave, il y a un homme affranchi, sans doute c'est son esclave. Il devait bien l'aimer, elle devait être belle, puisqu'elle s'appelle Margaris. Il a fait cette petite urne, il a investi des sous quoi, pour garder une mémoire. Et si on n'avait pas l'inscription, on interpréterait l'image tout à fait autrement. Il y a un homme et une femme assis face à un plateau de jeu. C'est un plateau de jeu qui est justement ce jeu qui se joue sans dé, le jeu des latroncules que décrit Ovide, que doit apprendre à jouer une femme, qui est un jeu de capture, un jeu type Go. Et elle se tourne vers nous, elle est coiffée de son voile, elle se tourne vers nous comme une matrone tout à fait digne, dans une position qui montre un statut social plutôt élevé, hein, donc c'est pas du tout comme une esclave. Et face à elle, il y a l'homme qui met la main sur le plateau, mais on sent bien qu'il est en train de perdre, volontairement ou non, ça on sait pas. Et ce qui est très joli, c'est qu'en fait, si on regarde de près, il y a un truc qui nous titille, c'est que le plateau, il est posé sur un drôle de support. Et le support, c'est un panier à laine renversé. Or, il faut savoir que dans l'iconographie funéraire romaine, le panier à laine, c'est l'image même de la matrone idéale, celle qui lana fecit, qui toute sa vie a filé la laine. Alors, c'est une expression, bien sûr, c'est des esclaves qui faisaient ça pour elle. Mais ça veut dire la femme qui a dédié sa vie à sa maisonnée, qui a surveillé que tous les travaux domestiques se passent bien, y compris filer la laine. Donc on met à côté de son nom un beau panier à laine de forme tronconique dans lequel on va déposer les pelotes de laine. Et là, ce panier est renversé. Donc on a cette image de « alors on va jouer ensemble, hop, on renverse le panier à laine, l'ana fecit, ce sera pour une autre fois, et hop, on pose le plateau et on se met à jouer. » Et c'est une image, qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? D'abord de parité, puisqu'il faut être de force égale. Alors non seulement ils jouent ensemble, mais c'est elle qui gagne. Et qu'est-ce que ça fait sur une urne funéraire ? Est-ce que c'est pour dire que ce qui les a unis va durer pour toujours et que cette image d'un jeu qui se prolonge aussi dans l'au-delà, une unité, une complicité, ça veut dire beaucoup de choses sur ce couple et sa profondeur, hein, unie par cette complicité qui ne sera jamais interrompue.
Véronique Dazen, merci et à très bientôt. Cette émission a été réalisée par Eva Piedel. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt sur RFI.